Bonjour à tous, je pense qu'on peut commencer. Michel, vous pouvez lancer le
Donc, j'ai rien à faire
micro.
que commencer de parler, c'est simple.
Allez-y.
Voilà, bon, donc j'y vais. Un grand merci à toutes et à tous de vous être inscrits aussi nombreux ce matin. Vous étiez plus de 300 inscrits à cette conférence que je vais avoir le plaisir de co-animer avec Rami Feghali de PwC, qui a été notre partenaire sur les travaux que nous avons réalisés pour mettre en perspective les nombreux textes réglementaires récemment parus en matière de finances durables. Qu'il s'agisse de textes d'origine européenne qui ont été adoptés dans le cadre du plan d'action de la finance durable, qui a été lancé en 2018 par la Commission, plan qui a pour ambition, je vous le rappelle, et qui explique un peu le pourquoi de cette conférence et le pourquoi des guides aussi, plan qui a l'ambition de vouloir transformer le système financier européen pour que celui-ci joue pleinement son rôle dans le financement de la transition de l'économie réelle vers plus de durabilité. Donc, c'est quand même un objectif très, très élevé, on aura l'occasion d'y revenir. Et puis, il y a aussi quand même un certain nombre de textes nationaux, on y reviendra, qui eux aussi poursuivent la même ambition. Donc, il y a une conjonction de volonté politique pour transformer la finance. J'en profite aussi pour remercier nos intervenants qu'on va voir apparaître à l'écran. Donc, Arthur Campredon de la direction du Trésor, Karine Degouve qui représente le secteur de la banque et qui est à la Fédération bancaire française, Vincent Damas qui représente la CNP, bien connu, l'assureur bien connu, Elena Canalé, je crois que c'est comme ça qu'on dit, qui, elle, représente la France Assureur, qui est l'ex-FFA, et qui occupe les fonctions autour du climat, de la RSE. Et puis enfin, François Garraud, qui représente Generali, où il est chez Generali, à la fois il est directeur de la RSE, il est en même temps président d'une commission chez France Assureur. Voilà. Donc, vous connaissez tous et vous voyez la tête des intervenants qu'on verra d'ailleurs un peu plus tard. Maintenant, quelques mots sur l'agenda. Donc, l'agenda, comme vous le voyez apparaître, il est articulé en quatre temps. Bon, quelques mots sur le contexte et l'ensemble du cadre réglementaire. Et puis ensuite, deux tables rondes. Au cours de laquelle on va faire un premier bilan d'étape concernant le déploiement de l'ensemble de ces textes. C'est Rami qui assurera cette table ronde. Une table ronde 2, où là on va essayer de réfléchir ou de voir dans quelle mesure ces évolutions réglementaires en cours de déploiement sont un véritable levier de transformation et d'accélération vers une transition durable. Ceci pour répondre à la préoccupation de la Commission que j'ai rappelée tout à l'heure. Et enfin, il y aura une partie conclusion et questions-réponses, mais vous pouvez aussi, au fil de l'eau, poser des questions, on les gérera. Voilà. Alors, maintenant, le contexte et le cadre réglementaire. Aussi, si vous voulez, le contexte, le cadre réglementaire qu'on va détailler dans les deux guides que vous connaissez, que nous avons publiés, un guide qui concerne la banque et un guide qui concerne le secteur de l'assurance. Et nous détaillerons le contenu de ces textes un petit peu plus loin. Donc, je rappelle qu'on a publié ces deux guides avec PwC à la fin de l'année dernière et pour qui sont des guides à vocation pédagogique. Et en fait, ces guides répondent à trois grandes séries d'objectifs que vous voyez apparaître à l'écran. Fournir aux acteurs un outil de décryptage et de compréhension de la réglementation, mettre en perspective et montrer les interactions entre les différentes réglementations. Ça nous paraissait aussi important qu'on présente chacun des textes, mais aussi les liens. Et vous verrez que dans le guide, il y a des renvois vers d'autres textes. Et enfin, donner une vision globale si c'était possible. Sur le cadre réglementaire lui-même, on a essayé le résumé. Le résumé, on le montre en quatre pavés que vous voyez apparaître à l'écran. Donc ça fait une espèce de puzzle. D'ailleurs, c'est comme ça qu'on apprend. Vous avez le premier volet qui est la taxonomie. On a considéré que la taxonomie jouait un peu un rôle pivot dans tout l'ensemble du dispositif, le document de référence. Ensuite, un pavé important sur la transparence, on reviendra sur le SFDR, on reviendra sur CSRD, l'article 29 de la loi énergie-climat. Un autre pavé qu'on a appelé outils et produits. Et là, on a rassemblé un certain nombre de textes autour des obligations vertes, autour du règlement benchmark, mais aussi des textes comme la loi PACTE, notamment pour sa partie qui concerne l'assurance vie. Et puis, une autre partie qui concerne l'introduction, j'en bafouille, le renforcement de la durabilité au travers d'un certain nombre de textes. Voilà, c'est comme ça qu'on a vu l'articulation, c'est comme ça que le guide est articulé de manière générale, et c'est comme ça qu'on va essayer de conduire la première table ronde, et je m'arrête là, j'ai assez parlé, et c'est donc Rami qui va animer la première table ronde sur l'état des lieux, le déploiement des textes. Merci.
Merci Michel. Et donc, je vais lancer effectivement la première table ronde. Donc là, l'idée, c'est de revenir sur un certain nombre de textes qu'a mentionné Michel et qui sont en cours d'application, et de faire un bilan d'étape pour voir les difficultés potentielles, les degrés d'avancement des intervenants, ce qui permettra, je pense aussi, d'alimenter la deuxième table ronde où on va essayer d'être un peu plus prospectif. Alors, on ne va pas tout décrire dans le détail parce que c'est l'objet du guide et en fait, la réglementation est faite de telle façon que ça prendrait probablement des semaines, voire des mois pour le faire. Et donc là, je vais juste préciser quelques éléments des textes et en commençant par les textes qui sont relatifs à la transparence, quelques éléments structurants. Et puis ensuite, je me retournerai vers les intervenants pour leur poser des questions sur des problématiques pratiques qui se sont posées. Donc d'abord, les sujets de transparence et de publication d'informations de durabilité. On a listé trois textes. Vous voyez tout de suite qu'on peut facilement entrer dans un niveau de détail. Tout ça est décrit dans le guide. Mais si on prend les trois textes qu'on a sélectionnés là, on a l'article 8 du règlement taxonomie, qui est le volet publication d'alignement avec la taxonomie du règlement taxonomie, donc vraiment dans la transparence. Celui-là, il s'applique aux entreprises qui sont assujetties à la NFRD et qui doivent publier ces informations dans la DPEF. Donc, on est vraiment dans la communication institutionnelle d'une entreprise. Et comme vous le savez, à ce stade, que ce soit pour les entreprises financières ou non financières, on est sur des exigences de publication d'éligibilité, de pourcentage d'éligibilité des activités. On aura l'alignement l'année prochaine pour les institutions non financières et l'année d'après pour les institutions financières. Autre réglementation, donc tout ça est en cours et a été implémenté, l'article 8 du règlement taxonomie. Autre réglementation qui a aussi commencé à être implémentée, donc on verra un peu le timing un peu plus tard, c'est le règlement Disclosure et SFDR, Sustainable Finance Disclosure Regulation, en bon anglais. C'est là qui s'applique au monde de l'investissement. En fait. Et donc, c'est pour les acteurs des marchés financiers et les conseillers financiers. Et elle vise à nouveau à la transparence sur les risques de l'intégration des risques de durabilité et aussi, dans une logique de double matérialité, de la prise en compte des incidences, des principales incidences négatives PAI dans le jargon de cette réglementation. Elle s'applique au niveau entité et elle s'applique aussi au niveau produit, et notamment pour les produits qui ont des caractéristiques de durabilité. À nouveau, dans le jargon de SFDR, les produits article 8 qui intègrent des caractéristiques sociales et environnementales, et les produits article 9 qui ont un objectif d'investissement durable. Ensuite, et j'en finirai là sur ces premiers sets de réglementation, nous avons l'article 29 de la loi énergie-climat, qui est la spécificité française, qui est une extension, on va dire, de SFDR. Vous savez que la France avait une avance avec les réglementations précédentes, donc elle a voulu garder cette avance. Donc on est toujours dans le monde de l'investissement. La particularité de la loi énergie-climat, c'est qu'elle va plus loin dans les exigences de publication sur l'intégration des risques de durabilité, notamment les méthodologies, les données, beaucoup plus précis. Et aussi, un autre point important, elle demande de prendre en compte ou de donner des informations sur la trajectoire d'alignement climat avec des pas de temps assez courts et assez précis à nouveau, et la trajectoire d'alignement avec la biodiversité, qui sont deux éléments nouveau. Voilà. Je ne vais pas, comme je vous l'ai dit, rentrer plus dans le détail. On va commenter ces trois textes, hein, sachant que dans la transparence, on y viendra plus tard, parce qu'il y a une dimension risque avec. Pour les banques, il y a aussi le pilier 3. Et puis, l'autre élément très important, c'est la DPEF, hein, qui existe aujourd'hui et qui sera en voie de révision. On apprendra qu'il pourra avoir la CSRD, autre élément crucial, dont on parlera plus dans le détail dans la deuxième table ronde. Rapidement, peut-être des éléments de calendrier sur ces réglementations, les réglementations que j'ai mentionnées. Donc, on a le message principal ici, c'est qu'en fait, on a des calendriers très serrés. On a des choses qui ont commencé le 10 mars 2021, qui sont la loi du règlement disclosure, l'entrée en application de l'article 29. On a beaucoup, beaucoup de choses à faire devant nous et le détail, je dirais, commence à arriver devant nous sur le règlement disclosure avec le détail des RTS, l'article 29 avec le détail des méthodologies et des trajectoires. Et puis, un autre changement majeur sera la CSRD. Donc, on vous communiquera hein, les slides, et à nouveau, vous avez tout ça dans le guide, donc vous pourrez avoir le détail des calendriers, et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Mais le message principal, c'est qu'en fait, il y a déjà beaucoup de choses qui sont sorties avec un certain encombrement, et il y a encore beaucoup de choses à venir dans les prochaines années. Évidemment, il y a la taxonomie aussi. Alors, je vais commencer par le règlement SFDR, En posant la question des assureurs, donc Vincent et François, et commençant par Vincent. Magnifique. Je pense qu'on peut afficher François aussi, hein, comme ça on aura tout le panel qui sera là. François, quels sont les principales, votre retour d'expérience à ce stade sur la mise en place de SFDR, difficultés, intérêts, et comment voyez-vous les prochaines étapes, parce que on est en cours d'implémentation finalement.
Oui, merci Rémi, bonjour à tous. Donc SFDR pour nous, ça continue à être un chantier important et transverse dans l'entreprise et aussi dans le groupe, puisqu'on a des filiales en Europe qui doivent appliquer ce règlement. Ça a été un chantier qui a associé, sans surprise, le juridique, la conformité, l'informatique, la direction des investissements, la direction assurance, beaucoup de monde, et avec des délais très serrés. Donc, on a réussi à respecter les échéances du 10 mars 2021, du 1er janvier 2022 que tu mentionnais, Rami. Non sans difficulté, une des difficultés étant l'interprétation des textes, puisque certains concepts sont nouveaux, comme les PAI, certains concepts ont des définitions très peu précises. Je pense à la définition des articles 8 et 9 qui sont décrits en deux phrases, mais il n'y a aucun critère qui est associé. Les autorités publiques n'ont pas voulu préciser dans des Q&A ce qu'il fallait entendre par article 8 et 9. Donc, voilà, hormis des discussions de place, on a eu des difficultés à savoir où placer le curseur. Et les autres défis que l'on a eus, c'est en tant que distributeur de contrats d'assurance vie multi-support, on propose dans nos contrats des fonds gérés par différents asset managers, et ce sont eux qui sont responsables de la production des informations SFDR au niveau des fonds. Il y a eu tout un travail de collecte de ces informations pour ensuite les mettre à disposition de nos assurés sur un site internet. On a à peu près 3000 supports d'unités de compte différentes, donc c'est un chantier complexe de collecter ces informations, de les vérifier, de les mettre à disposition. Donc, voilà. Donc, on attend beaucoup aussi des textes de niveau 2 pour préciser des interprétations que l'on a pu prendre à ce stade.
François, vous partagez des constats
Je partage le constat sur beaucoup de points. Alors, les principales difficultés auxquelles on a eu à faire face sont face. Alors moi, j'aime pas trop ce mot avalanche réglementaire, mais depuis 2016, 2017, entre la loi Pacte et les autres textes qu'on n'a pas évoqués et qui sont en cours de discussion, on a eu d'abord à faire face à trois natures de difficultés. Mais on va dire de petits problèmes qui sont liés, je dirais, d'abord à des aspects techniques, méthodologiques et de captation de la data. Ça a été évoqué par Vincent, notamment sur les données des sociétés de gestion, leur capacité à les fournir. Un sujet aussi organisationnel qui est très lié à la nature, à la gouvernance de cette thématique durabilité au sein de nos entreprises. Et ce troisième thème est très lié en fait à toute la difficulté liée à l'acculturation pour être soft, sensibilisation, voire formation sur ces sujets de la durabilité. Et ça, auprès de tous les acteurs qui ont été cités, c'est vrai au niveau des directions d'investissement, c'est vrai au niveau des directions des risques, c'est vrai au niveau, je dirais même sommital, où il faut, et on continue à le faire, permettre à chacun de pouvoir, dans son périmètre, intégrer ces nouvelles contraintes ou ces nouveaux éléments de compréhension. Et donc, du coup, on a essayé de traiter le sujet d'abord pour répondre, parce que les échéances sont extrêmement, extrêmement courtes. On a essayé d'y répondre en mode projet, hein. On a associé les acteurs clés sur notamment la mise en place des disclosures, et maintenant article 29 et suivant. Taxonomie évidemment, la difficulté c'est qu'on très vite on se rend compte que si le mode projet a évidemment une certaine efficacité, ça ne permettait pas d'assurer la réponse à toutes les questions ou tous les enjeux et les implications de ces enjeux dans nos organisations, qui décident, qui achètent, et donc des aspects à la fois non prévus parce que difficilement évaluables dans un premier temps. Je ne sais pas si Vincent a eu les mêmes difficultés, mais quand dans nos structures, on est sur des sujets de planification budgétaire, et des fois, on a eu parfois, et on a encore un peu de mal, à cadrer les impacts budgétaires et donc à les formaliser. Et ça, c'est très compliqué dans une entreprise où on ne sait pas quelle va être la nécessité. Enfin, les investissements qui vont être nécessaires. On sait que ça va nous coûter de l'argent et on a du mal à le cadrer. Et donc ça, c'était le premier point. Le deuxième point, je l'ai évoqué, celui de l'embarquement de tous les collaborateurs, et ça touche vraiment tout le monde. La présentation qui a été faite est très claire là-dessus. Ça touche tout le monde, hein, y compris la RH, hein, évidemment. Ça touche évidemment aussi tout le circuit. C'est peut-être la face cachée en fait de l'application de cette réglementation. En tout cas, c'est pas, même si c'est bien identifié, c'est tout l'accompagnement, la formation de nos réseaux de distribution, parce que tout ça, il faut que ça cascade et que ça, ça, ça ruisselle de façon opérante. Hein. On pourra parler, évoquer l'alimentation DDA si vous le souhaitez, les actes délégués. Voilà. Et donc, du coup, d'une manière générale, la mise en œuvre nous a mis en fait à la fois sur un processus d'accélération de cette intégration de durabilité, mais avec un certain nombre de points qui ne sont pas forcément tranchés, notamment sur, et ça je pense que la deuxième table ronde l'évoquera, sur les impacts en matière de gouvernance. Et puis je conclurai ce point en évoquant le sujet de la data. Je pense que la plupart des acteurs qui font appel à des providers savent de quoi je parle. Et donc, du coup, il y a aussi un vrai sujet de non pas de souveraineté, mais de qualité de l'information, de comparabilité. Et puis derrière, si on creuse encore, deux autres sujets, qui est celui des méthodologies d'évaluation de ces données et d'autre part, du contrôle de ces données. Et je ne parle pas des budgets associés et donc de la forme de dépendance dans laquelle nos organisations vont devoir prendre en compte en fait et s'autonomiser tant faire que se peut pour que derrière on puisse être aussi transparent que le souhaite le législateur. Voilà.
Merci François. Donc effectivement, il y a déjà quelques messages que vous avez fait passer tous les deux hein, sur les impacts de ces réglementations. J'ai peut-être une rapide question, enfin deux rapides questions. Il y en a une qui est dans le chat et qui a été posée. Et une autre. Là, vous avez mentionné le sujet de l'acculturation. Vincent, vous avez mentionné l'article 8, article 9, comment on définit. Je me demandais comment vous voyez le caractère compréhensible de cette réglementation pour votre écosystème et est-ce que ça a finalement permis de changer aussi le business ou la stratégie, ou est-ce qu'on est dans deux mondes à part? Là, j'anticipe un peu sur la deuxième table ronde, mais je voulais juste par rapport à ces termes qu'on a eus, PAI, article 8, article 9, voir un peu votre avis. Vous pouvez l'un ou l'autre répondre, ou les deux, comme vous voulez.
Peut-être, on a un vrai sujet, comme disait François, de formation des équipes en interne. Donc, on a fait l'an dernier une formation sur la finance durable qui était obligatoire pour tous les collaborateurs de CNP Assurance, quel que soit leur poste, qu'ils soient à la RH, comptable ou aux investissements. Et après, la question est très bonne, c'est-à-dire quelle est la pertinence des informations que l'on produit tous, assureurs, asset manager, banquiers, pour le client final. Et donc, les autorités ont fait des études auprès de panels de clients, est-ce qu'ils sont représentatifs je ne vais pas regarder en détail, mais je pense qu'il faudra faire dans quelques années une étude de compréhension. Est-ce que les informations sont compréhensibles par le grand public et est-ce que ce sont les informations qu'ils attendent? Donc on publie beaucoup d'éléments narratifs, hein, des politiques d'intégration, des risques de durabilité, dans les investissements, dans les rémunérations. Ça fait des documents assez lourds. Quand on regarde le nombre de téléchargements sur notre site, par rapport aux millions de clients qu'on a en France, c'est très petit. Alors, la réglementation est récente, mais enfin, je pense qu'il faudra faire un retour d'expérience.
De mon côté, moi, là, pour compléter le propos, je dirais il y a deux aspects. Il y a effectivement un aspect lié au narratif sur ce sujet de la durabilité qui est aujourd'hui, à mon avis, pas encore bien maîtrisé, puisque parler des PAI de double matérialité, c'est juste, pour être tout à fait clair, assez incompréhensible pour nos réseaux de distribution et, vous imaginez, évidemment, pour nos clients. Donc là, on a un travail de pédagogie à faire. Et ce travail de pédagogie est compliqué parce que, d'abord, c'est très encadré par les textes et, d'autre part, on est à la limite, parfois, du greenwashing. La data carbone, franchement, c'est pas forcément très compréhensible pour pour un client et comment on peut traduire ça de façon intelligible en aller-retour Paris-Milan, en nombre de douches, etc. Donc il y a vraiment un travail sur la communication responsable et en évitant le green ou le social washing. Ça c'est le premier point. Et puis le point que tu évoquais, Rami, c'est celui de la définition précise sur notamment ce qu'on met dans l'article 8 ou l'article 9. Et là, je pense que chaque compagnie, chaque banque vont devoir faire un effort de l'harmonisation, j'y crois pas dans un premier temps, mais de définir quel est son seuil à partir duquel elle considère que c'est de l'article 8, à partir de quel seuil et sur quels critères elle considère que c'est de l'article 9, qu'il y a de l'impact, comment je mesure, dans quelle proportion. Et donc, ça veut dire que on va avoir des espèces d'approches sous forme de scoring et de façon extrêmement transparente pour définir, pour affiner en fait ces définitions. Et donc, ce que le législateur n'a pas voulu faire, ben, on va devoir le faire. Et je pense qu'en temps d'eux, il y aura une analyse qui sera faite par nos autorités de tutelle, bien naturellement, pour essayer de définir peut-être une grille beaucoup plus fine. Et on voit déjà toutes les difficultés que l'on a dans l'application de la part verte et donc le caractère parfois très limité de l'offre compte tenu de la rigueur et de la précision des définitions. Donc on arbitre en fait entre une absence de précision et une définition trop fine et dans lequel bah, on doit naviguer pour définir nos politiques d'offre sur ces sujets. Donc moi je pense qu'il y a un travail de conviction. Et ce travail de conviction, il doit être parfaitement compris de toutes les parties prenantes, et en particulier au niveau sommitaire, d'où les aspects de sensibilisation. Et puis, il faudra qu'aussi, enfin, pour chacune des enseignes, et elles choisissent à trop embrasser mal étreint, j'aime beaucoup cette expression, parce que on pourra pas être partout, et donc j'entrevois des formes de spécialisation stratégique sectorielle, peut-être d'un certain nombre d'acteurs, pour pouvoir investir de façon significative et précise et de façon experte. Donc, je vois aussi plutôt des phénomènes à terme, à moyen terme, de spécialisation compte tenu de la complexité des sujets à traiter en matière de durabilité. Parce que mesurer les impacts négatifs que peut avoir notre activité ou nos investissements sur la biodiversité, aujourd'hui, c'est pas simple, il y a des pistes, hein, Dieu merci, mais demain, quand on va nous demander la part verte d'un contrat MRH, sans parler d'indemnisation, ça va être compliqué. Donc, il va falloir qu'on trouve un certain nombre de cadres prouvables, techniques, qui aujourd'hui, dans nos systèmes d'information, ne sont ni formalisés, ni qui n'existent pas. Donc, on a aussi cette difficulté d'aller à structurer la data au sein de nos propres récits et de la partager avec la data qu'on collecte quand il s'agit d'investissement de la part des sociétés de gestion.
Merci. Ça fait une bonne transition pour l'article 29. Et donc, je vais passer à élargir le panel avec Elena. Peut-être si vous... Alors, on va voir apparaître là, si tout va bien. Donc, l'article 29 de la loi énergie-climat. François, vous avez mentionné les sujets de biodiversité. Et alors, on n'a pas Elena. Bon, ben alors, Vincent, en attendant de résoudre ces petits problèmes techniques, continuons. Vincent, est-ce que, pour revenir, voilà, reprenons la même séquence, les enjeux de la loi énergie-climat, hein, qui est en cours d'implémentation, en fait, là, bien avancée, comment voyez-vous les enjeux, les difficultés? Et je pense qu'on a d'autres axes aussi qui apparaissent avec cette loi.
Tout à fait. Ouais. Donc l'article 29 de la loi énergie-climat, c'est un autre chantier conséquent qui nous occupe et qui nous occupera les années à venir, puisque la feuille de route est très très ambitieuse qu'ont fixé les autorités françaises par rapport aux ambitions européennes, et notamment sur le sujet de biodiversité qu'évoquait François. On nous demande d'expliquer en quoi notre portefeuille d'investissement est aligné avec des objectifs internationaux en matière de biodiversité, qui sont encore en cours de discussion et qui apparaîtront dans quelques mois, on l'espère, après plusieurs reports. Et par ailleurs, ces objectifs internationaux de biodiversité sont plutôt adaptés à des États qu'à des entreprises qui composent nos portefeuilles. Ça pose quand même des questions méthodologiques. Donc je pense qu'il y a des gros chantiers sur la biodiversité. Il y en a quand même encore sur l'alignement avec l'accord de Paris, puisque toutes les données ne sont pas calées. On voit que les fournisseurs de température de portefeuille donnent des résultats très hétérogènes selon lequel on interroge. Alors, dans les points positifs que je vois à l'article 29, moi, pour nous, ça sera un outil en tant qu'assureur vie de sélection et de suivi des asset managers avec lesquels on travaille, et notamment sur des données auxquelles on n'avait pas accès, sauf à les demander au cas par cas, qui sont les moyens consacrés par chaque investisseur aux enjeux ESG, donc les moyens internes en termes de TP et les budgets qui y sont consacrés. Donc, ça, c'est une information qui nous intéresse et qu'on regardera avec attention, même si le chiffre brut ne veut pas tout dire, il y aura des modèles d'organisation différents. Mais en tout cas, ça fait partie des points positifs que l'on a en tant que détenteur d'actifs.
Elena, je pense que vous avez récupéré.
Oui, vous m'entendez?
Oui.
Parfait.
Les enjeux de la loi énergie-climat.
Oui, donc effectivement, la loi énergie-climat et notamment le décret d'application, vous l'avez dit au début, en introduction, l'idée c'est de préciser SFDR et puis d'aller aussi plus loin. Donc ça précise notamment l'article 3 de SFDR qui demandait la publication d'informations sur les politiques d'intégration des risques dans la prise de décision dans les investissements. Mais ça va aussi plus loin puisque ça intègre, comme le disait il y a une seconde de Vincent, toute la problématique de la biodiversité, la stratégie d'alignement aux accords de Paris et puis la gestion des risques et à la fois les risques physiques, les risques de transition et les risques liés à la biodiversité. Donc ça va vraiment plus loin que ce que fait SFDR. C'est une réglementation qui est extrêmement ambitieuse. Je pense qu'elle est là pour donner un coup d'accélérateur à des travaux qui étaient déjà menés. Par exemple, sur les stratégies d'alignement, effectivement, comme le disait Vincent, il y a déjà des choses qui sont faites, même si les résultats sont encore hétérogènes. Sur la biodiversité, on s'intéressait au sujet. Là, clairement, on a un coup d'accélération très fort pour mener ces travaux, mener ces réflexions. Mais il faut les mener. On n'est pas encore très probablement au stade où on a des choses parfaites. Comment on évalue aujourd'hui un impact et une dépendance d'un portefeuille et la biodiversité, c'est très compliqué. On a encore des travaux à faire, donc la réglementation nous pousse à le faire, mais il faut mener cette réflexion. C'est aussi une réglementation qui est pionnière, qui va être précurseur par rapport aux travaux de la CSRD, parce que quand on regarde les travaux de la CSRD et notamment de l'EFRAG aujourd'hui, on retrouve toutes ces problématiques, on retrouve la biodiversité, on retrouve l'alignement à une stratégie à 1,5 degré, donc ça va nous permettre aussi d'anticiper un peu ce qui va arriver avec la CSRD. Donc le cap, il est fixé, et maintenant il faut essayer de réfléchir, d'avancer, de travailler pour matérialiser cette réglementation. Donc si vous voulez, pour moi cette année, il y a aussi cette logique de Co-Player Explain qui est renforcée. Cette année, il y aura plus d'Explain. L'idée, c'est que, au fur et à mesure de l'évolution, on arrive de plus en plus à avoir des choses plus concrètes, plus dans le Comply que dans l'Explain. Et peut-être pour répondre à une question qui est dans le chat, sur les PAI et les impacts positifs, justement, le 29 LEC permet de matérialiser, de publier des informations sur les impacts positifs. Là où SFDR est resté sur les Principal Adverse Impact, là, avec 29 LEC, on peut aussi mettre en valeur tout ce qui est fait positivement pour s'aligner à la biodiversité, pour s'aligner à l'accord de Paris, etc.
Je finis par François. Donc, on voit que c'est ambitieux, on voit que les méthodologies qui ne sont pas mûres, les données qui ne sont pas mûres non plus. Et puis, il y a aussi une exigence de donner une trajectoire, en fait, ce qui va au-delà ce qui pose des questions de stratégie plus globale, en fait, aussi. Comment voyez-vous l'implémentation qui doit être faite dans les mois qui viennent? C'est dans une logique de comply or explain, c'est étagé dans le temps. Comment vous voyez ça opérationnellement?
Alors, opérationnellement, je pense que on va avoir deux temps. Le premier temps qu'évoquait Elena très clairement sur, au-delà même de la compréhension des textes, je pense que là, on arrive quand même à un certain niveau de maturité depuis le temps qu'on est dessus. Maintenant, il faut qu'on puisse aussi formaliser la manière dont on va méthodologiquement analyser ces impacts, alors négatifs, on en a parlé, mais aussi positifs, que ce soit sur la trajectoire climat. Et là encore, on a vu que les derniers exercices, le stress test climat, montraient effectivement qu'il y a une certaine hétérogénéité des méthodologies. Donc là, je pense qu'il y a encore, dans un temps d'eux, une harmonisation pour au moins améliorer la comparabilité des résultats. Concernant la biodiversité, en fait, il existe des outils, des méthodes, et je pensais à celle qu'avait développée, ce qu'a développé de façon très ouverte Sycomore avec la NEC, hein, je crois que c'est Net Environmental Contribution, qui permet effectivement, sur ces aspects environnementaux, alors pas forcément aussi pointu que le souhaitent les textes, mais d'avoir une approche déjà très compréhensible, y compris pour le client qu'on évoquait tout à l'heure. Donc moi, je pense que le temps 1 qui va être de tout mettre à plat et de voir qu'est-ce qui existe, comment quelles sont la manière dont on va capter l'information et la redistribuer. Bon, ça, c'est un travail pour l'instant. Alors, pour le climat, je pense qu'on est bien avancé, mais pas forcément très harmonieux. Pour la biodiversité, on a beaucoup de questions plus que de réponses. Et donc, je pense que le temps 2, il va être aussi un peu comme l'a fait notre régulateur sur le stress test climat, la CPR notamment, faire une analyse du premier exercice de reporting pour essayer d'identifier les meilleures pratiques et ce qui fait le plus de sens. Moi, je pense qu'il nous faut, comme ça, si je devais m'engager sur une trajectoire, je pense qu'il nous faudra encore 2 ans. Je ne vois pas avant fin 2023 des choses très harmonieuses et je ne vois pas encore des choses très, très précises. Mais oui, effectivement, on a 2 ans, un peu moins de 2 ans de travail de fond à faire et probablement des investissements conséquents et de partage sectoriel et intersectoriel et un dialogue renforcé parce que derrière, il y a des sous-jacents, ce sont des émetteurs avec les entreprises. Et ça va peut-être une des difficultés, puisque nous, via nos propres sociétés de gestion ou les sociétés de gestion partenaires avec lesquelles on travaille, et il y en a beaucoup, il va falloir aussi qu'on active ce dialogue et au final qu'on l'oriente pour pouvoir, vis-à-vis des émetteurs et des sous-jacents, avoir la réponse à nos questions. Et donc, c'est plutôt ça qu'a en tête le législateur, c'est plutôt vers ça qu'on doit aller. Voilà.
Okay. Donc c'est une réglementation ambitieuse, mais dans laquelle il faut accepter le fait que il y aura un temps d'implémentation, mais ça a l'avantage, on va dire, d'aller dans une direction qui sera peut-être utile quand même pour tout le monde. On verra le point d'Arthur tout à l'heure. Maintenant, je vais parler de la taxonomie. Donc on va continuer à avoir tous nos panélistes, donc avec Karen.
Bonjour, vous m'entendez ?
On vous entend, Karen. Ça marche bien. Peut-être un tour de table sur la taxonomie. Donc là, on a fait l'alignement de la taxonomie. Là, on est cité sur l'éligibilité. Peut-être rapidement, quelques points, chacun à votre tour, pour vous dire ce que les difficultés que vous avez vues, l'intérêt ou pas, est-ce que vous envisagez comme problème à venir potentiellement? Je ne sais pas, Karen, du coup, je vous donne la parole puisque les autres ont déjà parlé.
Merci beaucoup. Donc, ce n'est pas forcément un tour complet, hein, parce que la taxonomie, comme vous le savez, c'est quand même un énorme morceau. Mais c'est cette grammaire, en fait, qui va alimenter toutes les autres réglementations, puisque c'est ce qui va permettre de déterminer en Europe les activités durables selon des critères techniques, plus du DNSH, plus des Minimum Social Safeguards. Sur les enjeux, alors on est au début de l'histoire, hein, de l'utilisation de la taxonomie, puisque là, pendant 2 ans, donc c'était la première année 2022, On y est. Et 2023, les institutions financières doivent publier leur ratio d'éligibilité. Donc, c'est déjà déterminé quelle est dans leur portefeuille la base qui est éligible à la taxonomie. Et on voit que rien que ça, ça a déjà été un exercice très compliqué. Je dis ça a été parce qu'il est quasi terminé, là, les publications ont lieu maintenant. Et sur cette première étape, on voit à quel point ça a été compliqué. Malgré deux FAQ publiées par la Commission, les règles ne sont toujours pas claires du tout. Il y a des tas de sujets d'interprétation. Nous, on a échangé plusieurs fois avec les commissaires aux comptes, par exemple, pour essayer de se mettre d'accord sur quelle était l'interprétation que l'on devait avoir des textes. Et là, je ne parle une fois de plus uniquement du ratio d'éligibilité. L'autre grand sujet, comme vous le savez, c'est la data. Beaucoup de données la majorité des données ne sont pas encore disponibles, que ce soit sur les ratios techniques, les DNSH, les social safeguards. Elles le deviendront progressivement pour les clients qui sont soumis à une FRD. Et donc CSRD demain, probablement automatisé via les apps, et tout ça pour les entreprises de plus de 250 salariés une fois que ce sera CSRD. Mais les données aujourd'hui ne sont pas là, ou très peu en tout cas. Et dans tous les cas, même au-delà de l'implémentation de CSRD, les données resteront très compliquées à obtenir, en tout cas pas disponibles pour les PME et ou les entreprises en dehors de l'Union européenne. Donc il y a un gros sujet de data, un gros sujet de collecte de data, y compris pour calculer le ratio d'éligibilité dans un premier temps, et à partir de 2024 sur le calcul du GAR, donc le ratio d'alignement avec la taxonomie. Ça, c'est pour les enjeux. Sur la partie opportunité, il faut quand même le reconnaître, la taxonomie crée une formidable opportunité pour développer des produits financiers. Et côté bancaire, c'est déjà le cas, en fait. Il y a déjà un certain nombre de produits qui sont proposés aux clients des banques, par les banques, qui se basent sur la taxonomie. Alors, ça va être des produits qui sont plutôt du type use of proceeds, donc avec des financements sur des activités spécifiques qui sont alignées avec la taxonomie. Mais c'est quand même une formidable opportunité. Donc, je veux quand même le mentionner parce qu'il n'y a pas que des difficultés dans l'implémentation de la taxonomie.
Merci Karen. Donc, on trouve des thèmes qui ont été mentionnés avant, précision des définitions et données qui sont sur des réglementations, les autres, je pense que François, Vincent, Elena, on dit la même chose. Elena, comment voyez-vous les enjeux de la taxonomie du reporting? Même chose, il y a même difficulté, même opportunité.
Vous m'entendez?
Oui.
Parfait, oui. Donc effectivement, je partage le constat de Karen, beaucoup de difficultés opérationnelles pour se conformer à ces reportings ces premières années malgré tout. La taxonomie, c'est tout de même une grande avancée, c'est un référentiel commun qu'on a pu mettre en place, il est exigeant, mais il est important pour prévenir les risques de greenwashing. Aujourd'hui, il est encore imparfait, donc les travaux qui sont menés, qui doivent être menés. Donc tout d'abord, la taxonomie ne prend pas en compte certains types d'actifs, par exemple les obligations souveraines. Donc, ça ne permet pas de donner un panorama complet des actifs des investisseurs et notamment des assureurs. En plus, toujours en complément de ce que dit Karen, je partage les constats qui ont été faits, la taxonomie, c'est une photo à un instant T. Donc, elle permet de dire si une entreprise est verte ou pas verte, mais pas tous ses efforts de transition. Donc, tout ce travail qui doit être fait, la taxonomie doit peut-être être utilisée comme un outil dynamique dans les stratégies de dialogue aussi avec les entreprises, de voir où elles en sont par rapport à un alignement avec la taxonomie pour qu'elles soient dans une trajectoire d'alignement plutôt qu'un alignement complet à un instant T. Et puis, sur la question des données, un point très important, c'est qu'aujourd'hui, on est encore dans des phases d'éligibilité, pas d'alignement. On n'aura pas les taux d'alignement avant 2023, alors qu'on nous demande par les entreprises, alors que chez les investisseurs, on nous demande déjà de communiquer sur de l'alignement. Et on ne peut pas utiliser des estimations. Donc, c'est très compliqué pour nous de fournir des indicateurs qui, finalement, sont pertinents, sont fiables, parce qu'aujourd'hui, on n'a pas la donnée. Et d'ailleurs, c'est un peu tout le problème avec la difficulté avec la réglementation en matière de finances durables, on est un peu parti de la fin et là on va être au pédale jusqu'au début. C'est-à-dire que tant qu'on aura toutes les données par les corporates, par les entreprises via le reporting extra-financier, ça sera compliqué pour nous de terminer en bout de chaîne et de donner toutes les informations sur nos produits. Donc c'est peut-être aussi un point à avoir en tête. Les premières années, c'est nécessairement un entraînement, une montée en puissance, tant qu'on n'aura pas des données fiables d'un point de vue de l'économie réelle.
Oui, et donc du coup, j'en profite pour demander à Vincent et à François, je vais faire dans cet ordre. Donc on a un sujet de toujours hein, potentiel précision de définition de données, voire aussi de complétude du périmètre dans la taxonomie, parce que l'alignement à la fin, on risque de tomber sur des choses qui sont très très petites. Comment vous gérez la communication autour de ça et gérer potentiellement le risque, pas de greenwashing, mais de déception du lecteur de vos états d'alignement. François, vous êtes
prêt. Je peux répondre très brièvement en rebondissant sur ce qu'a expliqué Léna. C'est vrai que si on est chimiquement pur, le marché va être très restreint, on ne fera pas de greenwashing, mais franchement, on ne va pas faire beaucoup de business non plus. Et donc, du coup, je crois qu'on aura là aussi, mais effectivement, le législateur a été très ambitieux pour les raisons politiques et poussé par les Green and Vert au niveau de la Commission européenne, sans se rendre compte des impacts organisationnels. Donc, du coup, moi, ce que je crois, c'est qu'on aura une étape intermédiaire, peut-être avec des offres et une communication qui devra être extrêmement précise et claire, pour dire, ben voilà, on va sélectionner peut-être des véhicules qui seront en transition, qui ne seront pas complètement, voire pas du tout éligibles à la taxonomie, mais qui auront des indicateurs très clairs sur leur trajectoire et la manière dont elles assument toute leur transition. Et là, je pense qu'on va ouvrir, et ça sera à mon avis, sain, on va ouvrir de façon très pointue des marchés pour accompagner effectivement et investir dans des entreprises qui soutiennent ces transitions. Donc du coup, ça sera l'éligibilité totale vert par verte, ça sera restreint à mon avis pendant 2-3 ans. Progressivement, je pense que on va remplir un espèce de vase commun qui va sur une période à définir produire en fait des produits ou des véhicules qui seront chimiquement parfaits au point de vue de la taxonomie. Mais je pense que s'il n'y a pas cette étape, ça va être très compliqué de trouver des offres et de répondre de façon complètement compliant au marché. De toute façon, le marché ne sera pas de toute façon suffisant au regard de ce qu'on peut observer aujourd'hui hein, sur l'exigence des critères requis par Taxo. Je pense que voilà, ça sera en deux temps.
Okay. Vincent, si vous avez un court commentaire, allez-y, sinon on a je passerai à la.
Oui, non, moi je pense que on a mis la charrue avant les bœufs, comme ça a été dit, c'est-à-dire qu'on demande à tous les producteurs de produits financiers, y compris les assureurs, de donner le pourcentage d'alignement avec la taxonomie dès maintenant. Et on est tous obligés de dire 0% puisqu'on n'a pas les données des entreprises et on n'a pas le droit de faire d'estimation. Donc, autrement dit, ça ne sert pas à grand-chose, ça ne discrimine pas entre produits ou entre producteurs. Et je pense que c'est plus pertinent de différer nos premières publications sur cet indicateur. Voilà. Et par ailleurs, le fait d'avoir eu des Q&A qui arrivent en pleine période de Noël, alors qu'on était tous depuis plusieurs mois dans des travaux d'estimation, n'a pas été confortable. Donc, un souhait qu'on souhaiterait exprimer, c'était d'avoir plus de temps de préparation et pas des textes de dernière minute qui nécessitaient de se raccrocher aux branches avec des commissions. Merci.
On va voir le commentaire d'Arthur tout à l'heure, mais tout en étant bienveillant, parce que là, on a quand même accumulé des doléances avec des points positifs malgré tout. Alors, sur l'intégration de la durabilité dans le Conseil de gouvernance produit, donc on a des impacts sur MiFID 2 et DTA, avec à la fois un impact sur la gouvernance des produits et à la fois la prise en compte des préférences de durabilité. Préférences de durabilité qui sont elles-mêmes définies par rapport au au jargon de la réglementation, PAI, taxonomie, notamment, et investissement durable. Karen, comment voyez-vous les enjeux de l'intégration de la BT dans le devoir de conseil et de gouvernance produit?
Alors, vous m'entendez toujours?
Oui. Ouais.
Alors, sur la partie conseil, alors les banques sont essentiellement, c'est vrai que je représente plutôt le secteur bancaire, hein, les banques sont concernées essentiellement au titre de leur rôle de distributeur, en fait, de produits d'épargne. Et sur le sujet conseil, je vois, il y en a peut-être d'autres, mais moi, je vois trois enjeux, trois difficultés principales. La première, alors c'est tout ce qui vient d'être mentionné, c'est le sujet de timing. Et ça, on se rend compte que c'est un petit peu récurrent dans tout ce paquet réglementaire sur la finance durable. Il y a de manière récurrente des sujets de cohérence ou plutôt d'incohérence du séquencement des différents textes, de l'entrée en vigueur des différents textes. Je ne sais pas, c'est trop petit là, votre slide, pour que je puisse voir si les dates y sont. Mais en gros, l'entrée en vigueur dans le devoir de conseil, donc dans MiFID et IDD, on a un double sujet de timing. En l'état actuel des textes, en fait, les producteurs de produits d'épargne devront publier les informations ESG avant que les émetteurs n'aient l'obligation de le faire. Ça, c'est le décalage SFDR-CSRD. Et les distributeurs devront demander aux clients leur préférence en matière de durabilité, donc c'est le devoir de conseil ESG, avant que les producteurs n'aient pu produire les informations nécessaires. Ça, c'est le décalage MiFID IDD et les RTS de SFDR. Donc, et notamment sur ce qui a été mentionné plusieurs fois, les PAI. Donc, ça, c'est l'article 4 SFDR. Les dates que moi j'ai en tête, mais vous me direz si je me trompe, c'est possible, c'est que CSRD, les données corporate, on est 2024 au plus tôt, les RTS, SFDR, on est en plutôt janvier 2023, et MiFID IDD, on est entre août et novembre de cette année. Donc bravo. En fait, on fait tout dans le mauvais sens. le séquencement est complètement l'inverse de ce qu'il faudrait que l'on ait. Donc ça, c'est un vrai gros sujet, le séquencement de l'entrée en vigueur des textes. Le deuxième enjeu moi, que je vois, c'est, et ça a été mentionné par Vincent et François tout à l'heure, il me semble, c'est la lisibilité des informations. Les PAI sont pas du tout lisibles pour un investisseur final, hein, il faut se le dire. C'est des informations que l'épargnant lambda de ma caisse d'épargne, je dis les caisses d'épargne parce que c'est le groupe d'où je viens, ne comprendra absolument pas. Il faut être clair. Donc aujourd'hui, une clientèle de particuliers ne pourra pas comprendre les PAI, les informations ne sont pas du tout lisibles. Donc là, il va falloir trouver des solutions. Il y a des recommandations qui sont, je crois que ça vient plutôt d'ONG, mais à voir si ça n'a pas été repris par d'autres, d'avoir l'équivalent d'un Nutri-Score pour les produits financiers, qui me semble pas complètement idiot du point de vue distributeur, pour avoir quelque chose de lisible. Et puis le troisième enjeu que je vois qui a également été évoqué par Vincent et François avant, c'est l'enjeu de formation, et notamment la formation des conseillers sur le sujet durabilité. Donc dans un conseiller de clientèle en agence qui distribue des produits d'épargne, aujourd'hui est encore très mal formé sur ces sujets, voire pas du tout formé sur ces sujets, donc il y a un gros enjeu de formation de la partie distribution.
Merci Karen. Alors on est très en retard hein, dans le timing, donc je vous demanderai
si... Désolé, je suis trop longue.
Ah ben non, pas du tout, non, c'est parce qu'on est tous, enfin, il y a beaucoup de monde et c'est des sujets compliqués, mais c'est tout jusqu'à maintenant, vous êtes très straight to the point. Hein. Du coup, Vincent, François, si vous avez un commentaire, bah, faites-le, sinon on passe on va donner la parole à Arthur, qui va nous expliquer comment on va résoudre tous ces problèmes de calendrier. Bon, Arthur, je... Donc, allons-y. Je ne sais pas si Arthur ou... Voilà. Arthur, est-ce que vous nous entendez? Nous avons des problèmes techniques. Voilà, Arthur.
Bonjour à tous. Ah, j'ai pris peur et puis je me suis dit, allez, prends ton courage à deux mains. Finalement, je suis là. Bon, bah, bonjour à tous. Merci beaucoup pour l'invitation. Je suis ravi de pouvoir discuter avec vous. Donc, effectivement, je travaille donc à la Direction Générale du Trésor, donc au sein du ministère de l'Économie et des Finances. Et bah, je suis et j'assume en partie responsable de tous les mots qui ont été évoqués depuis ce matin, et souvent à juste titre, depuis l'ensemble des acteurs un peu de ce cadre-là. Alors moi, si je vais essayer d'y répondre, hein, j'ai pas toutes les réponses bien sûr, et je pense objectivement que il s'agit plus d'un travail collectif que d'un dialogue. Et que de décisions unilatérales de la part d'autorités publiques. Nous, on essaye vraiment d'être à l'écoute pour essayer du mieux qu'on peut d'améliorer ce cadre-là, de le faire avancer, de le faire maturer un peu, comme c'est tout nouveau. Nous, côté Trésor, du coup, on n'est pas, enfin, juste pour indiquer, on n'a pas véritablement de pouvoir d'interprétation des textes. Nous, on est juste là pour essayer d'accompagner du mieux qu'on peut le secteur privé, puisque c'est effectivement nous qui avons négocié et imaginé toutes ces réglementations. Alors, j'ai entendu beaucoup de choses depuis ce matin, comme je l'ai dit souvent à juste titre, je vais essayer d'y revenir. Effectivement, en fait, moi je trouve, et c'est notre analyse côté ministère de l'Économie et des Finances, qu'on est dans une période vraiment très cruciale sur le cadre finance durable. En fait, cette période, elle correspond, et c'est normal qu'elle soit assez challenging, à une période où on met en place un cadre qu'on a imaginé depuis quelques années. Depuis quelques années, et notamment depuis l'accord de Paris, on a une vraie volonté de mobiliser le secteur privé pour qu'elle accompagne, pour accompagner le secteur privé dans sa mobilisation en faveur du coup du financement, de la transition écologique, en faveur des trajectoires sur l'accord de Paris, en faveur de la mobilisation intersectorielle de l'ensemble de l'économie et puis même des pouvoirs publics sur ces enjeux de transition, de réchauffement climatique, etc. Donc ça a été une longue période. Où beaucoup d'acteurs ont essayé de proposer des nouvelles réglementations, on a beaucoup, beaucoup discuté, on a beaucoup imaginé. Et donc là, on arrive à un cadre qui est effectivement pas encore très harmonieux ni très bien articulé, mais qui est vraiment dans une première phase. Ce cadre a été imaginé, maintenant il rentre en vigueur, il entre en application, et donc c'est effectivement un gros challenge pour les entreprises, pour les institutions financières, pour tout le monde, tous les acteurs de l'économie, parce que ça demande, et puis ça a été bien rappelé, la mise en place de beaucoup de processus internes, beaucoup d'anticipation, beaucoup de dépenses, de mobilisation de beaucoup de services, beaucoup de pédagogie, parce que c'est des sujets très nouveaux et très novateurs. Donc vraiment, c'est très important. Puis de l'arbitrage, je vais y revenir longuement. En fait, cette entrée en application, elle nécessite beaucoup d'arbitrage et beaucoup d'interprétation de ces nouvelles règles. Parce qu'effectivement, on est sur une matière très nouvelle, puisqu'on a l'habitude avec la réglementation financière et sectorielle. C'est des choses qui datent de plusieurs années, sur lesquels on est mature, sur lesquels on a des concepts très bien définis, sur lesquels on peut se baser, on peut interagir, etc. etc. Là, c'est tout nouveau, c'est une nouvelle matière, et c'est très important. Donc voilà, il y a beaucoup d'acteurs qui ont des interprétations différentes, on essaie de faire émerger des bonnes pratiques, enfin tout ça, c'est vraiment un travail très important. Et je vais mentionner un troisième challenge, c'est la disponibilité des données, qui sont nécessaires du coup à tous ces reportings et toutes ces nouvelles exigences de reporting et de disclosure. Sur cette question d'arbitrage, je pense que c'est vraiment le premier principal enjeu. Parce qu'en fait, on a besoin de cette maturité, on a besoin d'une bonne définition, on a besoin d'une bonne articulation de ce cadre. Et tout cela, en fait, ça sera permis qu'à terme, en fait. À terme, par la montée en puissance, petit à petit, de tout ce cadre-là, il va être appréhendé, il va être maturé au sein des entreprises, au sein des pouvoirs publics, au sein de tous les acteurs, etc. Donc c'est vraiment très important. Mais je pense que vraiment, si j'ai un mot sur lequel j'aimerais revenir, c'est qu'on a cette période cruciale, en fait, demande vraiment une grosse humilité de la part de l'ensemble des parties prenantes, de la part de nous, côté autorité publique, de la part des entreprises, de la part des cabinets, des ONG, de tout le monde. Parce qu'en fait, on a, je pense, un travail collectif, et je dis bien collectif, j'insiste là-dessus, d'interprétation et d'émergence de bonnes pratiques. Je pense que c'est vraiment un enjeu vraiment, vraiment important. Il faut que tous, collectivement, on soit associés et on soit, en fait, qu'on se prenne tous dans le même bateau, parce qu'on est tous dans le même bateau, qu'on vienne préciser et définir et faire émerger des bonnes pratiques sur un cadre qui, effectivement, n'est pas assez précis, manque d'articulation et est nouveau et manque un petit peu de maturité. Ça, je l'ai déjà dit. Alors, là-dessus, on va avoir du coup les acteurs sur l'interprétation et sur ce travail collectif. Les acteurs publics vont être clés, et donc j'y reviendrai un petit peu après sur les chaque réglementation. Mais si je dois revenir sur, parce qu'on m'a demandé donc mes conseils, donc si j'ai des conseils, moi je pense que le principal conseil que je peux vous donner, c'est de bien regarder les publications de toute forme de guidance. C'est vraiment, vraiment important. effectivement, des fois, les timings sont mauvais. Effectivement, la commission a publié des guidance sur la taxonomie en pleine période de fête, donc ce n'était pas forcément le plus pertinent. Effectivement, il y a encore plein de problèmes, mais je pense néanmoins que toutes ces guidance sont vraiment importantes parce qu'elles viennent préciser et expliquer des concepts qui sont difficiles à définir, qui sont nouveaux, qui sont vraiment qui revêtent un certain nombre de réalités différentes en fonction des institutions financières, en fonction du type d'entreprise, en fonction des secteurs, en fonction des États membres. Donc tout ce cadre harmonisé au niveau européen, et c'est important de revenir, nécessite encore beaucoup d'interprétations, et j'y reviendrai un petit peu après. Je pense qu'un autre conseil, c'est vraiment quand vous faites vos reporting et vos disclosures, c'est faire preuve le plus possible de transparence et d'honnêteté. Et ça, je pense que c'est vraiment important. Je pense que l'ensemble de la communauté des superviseurs, nous, on n'est pas superviseurs, mais les superviseurs, les certificateurs, toutes les parties prenantes, les ONG, etc., tout le monde sait très bien que ces sujets manquent de maturité et manquent de clarification. Donc, en fait, je pense, et c'est vraiment une conviction assez profonde au ministère de l'Économie et Finances, c'est que vous ne serez pas pénalisé si, en toute honnêteté, en toute bonne foi, vous faites du reporting, même imparfait. Je pense que c'est vraiment important et ça permettra en fait une montée en puissance petit à petit avec un dialogue constant entre superviseurs, autorités publiques, parties prenantes, entreprises, de faire émerger ces bonnes pratiques dont j'ai mentionné, de faire émerger ces bonnes interprétations, de faire émerger toutes ces définitions qui vont du coup structurer ces reportings petit à petit. Il faut vraiment imaginer ça comme un moteur qui se met en place petit à petit et qui va atteindre son plein régime au fur et à mesure des années. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle on a prévu dans un certain nombre de réglementations une montée en puissance progressive. Je pense à la taxonomie, je pense à la SFDR, etc. Alors oui, tout n'est pas parfait. Oui, certaines réglementations entrent en application avant d'autres. Ça ne devrait pas être le cas, etc. Mais voilà, c'est la situation en tant que telle. Il y a beaucoup de raisons. On pourrait y passer des heures et des heures à discuter des raisons pour lesquelles ce cadre a été pas parfaitement bien fait. Je pense que ça sert à rien d'y revenir. Je pense que vraiment, ce qui est important, c'est de venir revenir un petit peu sur la taxonomie SFDR article 29. Sur lequel je voudrais juste passer 2-3 minutes si j'ai le temps, pour vous dire qu'effectivement, c'est sur la taxonomie, vous aviez deux Q&A de la commission qui a été publié, de nombreux guides de la part des secteurs privés, des ONG sur les explications, etc. Je vous invite vraiment à recommander ça. Et puis même l'AMF, dans sa supervision, dans les communications qu'elle fait, publie des informations sur la taxonomie, publie les champs d'application, des reporting, publie, et dans son dialogue en direct avec les entreprises, guide un petit peu les entreprises. En tout cas, je sais que l'AMF et puis l'ensemble des parties prenantes, on sera en train de recruter beaucoup de staff pour vous aider, pour essayer de venir guider un petit peu la place. Sur SFDR, très rapidement, je pense qu'il faut juste se rappeler que on doit prendre une certaine distance vis-à-vis des classifications articles 8 et 9. En fait, parce que il ne s'agit pas vraiment de label, et puis SFDR n'a pas été conçu comme un régime de label. C'est un règlement qui prévoit des règles de transparence et d'information. C'est vraiment important. C'est pour ça qu'en fait, on a l'élaboration de critères un peu minimum pour les articles 8 qui est prévu pour la Commission européenne dans sa stratégie renouvelée. Donc là-dessus, petit à petit, encore une fois, il y a la guidance qui vont venir. Sur SFDR, on a eu le Q&A de la Commission européenne de juillet, du 21 juillet 2021, je vous invite à regarder, qui est dans certaines précisions sur le terme promotion des caractéristiques ESG pour l'article 8, sur la composition des produits article 9, sur l'articulation entre les benchmarks et les produits article 9, enfin bref, tout un certain nombre de process qui sont vraiment importants et sur lesquels vous devez vraiment, qui vous sera utile en fait pour l'application. Enfin, sur article 29 LEC, effectivement, c'est très novateur, effectivement, il s'agit de sujets encore plus nouveaux et naissants. Mais je pense néanmoins que c'est important, et là-dessus, quand on a rédigé l'article 29 LEC, loin de nous était l'idée de dire, bah voilà, on va créer des réglementations hyper strictes, hyper précises, sur lesquelles, voilà, nous, on a les idées déjà claires. Non, pas du tout. Nous, notre idée, c'est de faire juste accompagner la place dans sa prise de conscience que ces sujets sont importants. Et que nous, on n'ira pas, en tant que du coup, enfin, autorité publique, venir dire bah non, ça va pas parce que vous n'avez pas suivi telle ou telle méthodologie. Je pense que ce qui est important, encore une fois, je l'ai rappelé, c'est l'honnêteté, la transparence sur bah voilà, on a essayé telle ou telle pratique, on sait que du coup, les objectifs COP15 ne sont pas encore complètement définis, on a une certaine idée à quoi ils vont ressembler. On sait cette idée de plus 5% d'intégrité des écosystèmes à 2030, enfin, ce genre de concepts qui sont en train d'émerger. Mais voilà, on attend juste de la bonne foi, petit à petit, une montée en puissance. Nous, on est là pour vous accompagner. On sait qu'il y a beaucoup de boîtes qui sont en train de définir des outils. Tout ça va monter en puissance petit à petit, et là-dessus, on est vraiment dans une position d'accompagnement. Je pense que ce qui est attendu de notre côté, et au cours des prochaines années, et ça, j'y reviendrai plus tard dans la table ronde, et dans cette conférence ce matin, c'est que vraiment, on a cette position au sein du ministère de l'Économie et Finances d'améliorer cette bonne articulation, des calendriers, des concepts, une meilleure cohérence, une meilleure harmonie du cadre réglementaire. Pour nous, c'est notre objectif numéro un, c'est que les différentes réglementations qu'on a élaborées se répondent, davantage les concepts, font référence et s'entrecroisent, etc. Mieux définir les thèmes de sujet, donc ça c'est la montée en puissance de la taxonomie, elle va être complétée, en tout cas nous on pousse fortement là-dessus. Avoir un cadre de disponibilité des données, avec des données de bonne qualité, pertinentes et comparables, c'est la CSRD qui en aura en implication plus tard. Et enfin, ça a été mentionné du coup par de nombreuses parties prenantes, être pleinement mobilisé pour expliquer et faire de la pédagogie à tous les niveaux, et je pense que c'est vraiment important que l'utilisateur final, donc l'épargnant, l'investisseur, l'entreprise, puisse être accompagné et puisse avoir un cadre qui soit vraiment précis et clair sur lequel il comprend vraiment de quoi on parle et pas avec des concepts complètement obscurs où on voudrait. Bon, moi, j'ai expliqué la taxonomie à mes parents et ils m'ont demandé si vraiment je me foutais de leur gueule et qu'on avait vraiment élaboré un truc aussi horrible.
Et donc, les 1000 pages de critères techniques.
Donc voilà, il faut qu'on simplifie ce cadre, il faut qu'on l'améliore, il faut qu'on le rende intelligible pour l'ensemble des parties prenantes et ça, on est pleinement mobilisé pour là-dessus. Je suis désolé, j'ai pris un peu plus de temps que prévu, mais voilà, je voulais vraiment revenir sur tout ce que vous avez évoqué jusqu'à présent.
Bon, je pense que c'est important. Moi, je retiens humilité. Hein. Je pense que c'est effectivement l'humilité de tous les acteurs, les producteurs, les lecteurs, les superviseurs. Transparence, évidemment, et guidance avec un travail collectif. Parce qu'il y a un gros travail, il y a un gros besoin de guidance pour sécuriser le cadre et puis capitaliser. Vraiment, et y compris, hein, je pense que c'est vrai que la commission, si on prend la taxonomie, et Karen en a parlé tout à l'heure, elle a produit des Q&A, mais je pense qu'il y a encore matière à faire. Voilà.
Tout à fait. Tout à fait, tout à fait.
Merci Arthur, on est très en retard, donc je vais
pas de problème, merci beaucoup.
Parler de l'intégration des risques, mais peut-être rapidement et trop rapidement par rapport à l'importance de ce sujet. Peut-être en commençant du côté assurance, et je vais voir Elena, Vincent et François. Voilà. Il y a un acte délégué Solvency 2, aussi la révision de Solvency 2, et donc il y a des éléments réglementaires, mais il y a eu des stress tests, on l'a mentionné. Plus généralement, quand vous voyez les enjeux et difficultés de l'intégration de la durabilité dans la gouvernance, dans la gestion des risques, on risque d'entendre des choses dont on a déjà entendu sur les données, notamment, j'imagine. Vincent ?
Oui, en effet, donc on travaille sur ce règlement délégué Solvabilité 2 qui rentre en application le 2 août, comme la DDA révisée. Donc l'idée, c'est d'intégrer la durabilité dans différentes politiques de gestion des risques en interne. Bon, autant sur certaines, on avait déjà anticipé, hein, par exemple, on revient sur l'intégration de la durabilité dans les politiques de rémunération qui était déjà une exigence de SFDR. Donc, on l'a déjà traité. Il y a des choses plus nouvelles et qui portent à beaucoup d'interprétations. Par exemple, pour les assureurs, on doit indiquer dans quelle manière les risques de durabilité sont intégrés dans l'estimation de nos provisions techniques, donc l'estimation actuarielle des dettes envers nos assurés. Et là, c'est des sujets encore presque plus complexes que les risques de durabilité à l'actif. Voilà. On a commencé à toucher du doigt avec les stress tests climatiques qui avaient des hypothèses de sinistralité climatique, mais voilà, on travaille avec notre fonction actuarielle et au sein de France Assureur sur ces sujets.
D'accord. France Assureur, du coup, Elena, vous pouvez commenter?
Oui, donc effectivement, je pense qu'on est face à un vrai changement de paradigme avec toutes ces questions de réglementation. La durabilité aujourd'hui, elle est intégrée partout. Donc aussi dans la fonction clé gestion des risques, dans le principe de la personne prudente, donc dans la fonction investissement. Donc là, effectivement, il y a un gros travail à faire au niveau des entités pour s'approprier cette réglementation, s'approprier ces objectifs en matière de durabilité, ces risques de durabilité et voir comment tout cela s'applique. On a effectivement commencé à travailler l'année dernière sur des exercices un peu type stress test. Ce qu'on voit, c'est qu'il y a encore du travail à faire sur les méthodologies, donc sur les données, les scénarios qu'on choisit, les horizons de temps. Donc le travail ne fait que commencer et évidemment, on est tous mobilisés pour trouver des bonnes méthodologies qui font avancer toute la place.
Merci. François, lorsque j'entends ce sujet et puis les autres sujets, on est finalement sur un sujet qui est très technique. Très très complexe et qui demande qui touche beaucoup de processus, beaucoup d'impact, un peu cœur. Hein. Donc ça demande j'ai l'impression des investissements, enfin j'ai l'impression des investissements significatifs. Comment vous voyez tout ça?
Alors, des investissements, je ne parlerai pas de budget, je parlerai d'investissements intellectuels d'abord. Moi, je pourrais vous travailler, continuer à travailler avec la direction des risques. Je porte à votre attention que ce dont on parle, la durabilité maintenant, voilà, qui est un terme bien, bien installé, au niveau des risques, c'était évoqué comme ce qu'ils appellent des risques émergents. Et j'en ai mis, mais c'est le climat, les mégatrends auxquels on a à faire face, ont rien d'émergent, ils existent. Et en fait, la définition qu'ils m'avaient donnée, c'était de dire, non, non, nous on parle de risques émergents, c'est des risques dont on ne sait pas correctement et de manière robuste identifier l'impact en termes financiers, d'accord? Et donc, du coup, maintenant, on est passé de risques émergents qui sont débaptisés en risques ESG, pour être effectivement dans la logique de l'acte délégué Solvency 2. Et donc, du coup, si j'en rebondis sur ce que dit Elena, c'est effectivement un problème de définition de métrique pour pouvoir mesurer les impacts et demain, dans le cadre, je dirais, de la révision de la directive Solvency 2, l'IAOPA va être un mandat, même, il me semble, pour réfléchir à, je dirais, quelles seraient, une fois que ces métriques et ces chiffrages seront plus précis, quels impacts auront, ça aura en termes d'exigence, en termes de capital, ce qui est colossal. On connaît les enjeux. Alors, sur le climat, voilà, on commence à toucher le sujet. Sur la biodiversité, enfin, je sais pas trop comment, à ce stade, on va pouvoir avoir des métriques très, très précises pour pouvoir alimenter nos services d'actuariat. Donc, on est dans un univers un petit peu, pas nouveau conceptuellement, mais nouveau techniquement. Et donc là, je pense que je mets beaucoup l'intervention de Vincent sur la nécessité de coopérer sur ces sujets-là, parce que les recherches académiques, elles sont quand même pas florès, et donc il va falloir vraiment qu'on investisse beaucoup d'intelligence, de temps, et pour pas être dépendant, je dirais, de métriques qui nous seraient imposées par des providers bien inspirés et sûrement très très chers. Donc, là, je pense qu'il y a un vrai enjeu de coopération tel que c'est évoqué. Il y a un enjeu de paramétrage également sur ces risques de durabilité et pour évaluer de façon plus fine et plus robuste et plus transparente l'impact que ça peut avoir sur nos différents scénarios climatiques en particulier, et qu'on y ajoutera la biodiversité. Je pense qu'il y aura un dialogue très puissant à avoir avec à la fois, je dirais, nos émetteurs, les sociétés dans lesquelles nous investissons, et puis voir aussi effectivement sur le côté lié à nos activités en propre, comment on intègre ça demain, je ne sais pas, moi, une multirisque industrielle, il va falloir mesurer ses impacts, quelles expositions en fonction de la zone géographique, du secteur on prend, et comment on le maîtrise, et comment on le cadre, et comment on le chiffre. Donc, c'est vraiment des choses qui peuvent être potentiellement extrêmement inflationnistes d'un point de vue financier et à terme sur le chargement de capital. Donc, c'est vraiment des choses sur lesquelles il va falloir que les compétences actuarielles se musclent. Mais je pense que c'est pas tellement le sujet du nombre que de la qualité des modèles que nous utilisons, qui aujourd'hui sont encore en work in progress, hein, pour être tout à fait transparent, enfin, de mon côté, de notre côté en tout cas.
Donc un travail, un nouveau collectif important à faire. Je pense que le sujet de la durabilité nous pose un challenge collectif en réalité, hein. Globalement. Je vais peut-être, merci, hein, sur passer la parole à Karen pour aborder le volet bancaire qui a le bénéfice aussi d'avoir aussi la BCE en superviseur présent, on va dire, que ce soit sur les guidelines ou les stress tests, et puis aussi, il y a des discussions, des perspectives d'impact en capital. Je sais pas, Karen, vous pouvez avoir votre perception sur les volets réglementaires et aussi opérationnels de cette problématique.
Oui, merci. Peut-être juste dans un premier temps, pour rebondir sur ce que disait Arthur tout à l'heure, je voudrais le rassurer, les acteurs financiers lisent bien toutes les guidelines, hein. et tous les guides qui sont développés, en particulier par les superviseurs et régulateurs. Et on va même au-delà, je trouve que c'est assez intéressant, c'est peut-être la première fois que ça arrive de cette manière-là sur les sujets ESG, parce que c'est une matière tellement nouvelle, on est vraiment dans une approche de je dirais presque, ça va même au-delà du dialogue. J'ai l'impression moi, qu'on est dans de la co-construction avec nos superviseurs, ce qui est vraiment quelque chose d'assez nouveau et assez agréable. On a par exemple les banques ont participé à un groupe de travail avec la CPR sur à la fois le développement de la gouvernance, de la gestion des risques ESG, sur la construction des premiers stress tests, ainsi que d'ailleurs l'association des banques françaises à la rédaction du guide des bonnes pratiques de la CPR. Donc on est vraiment ça va au-delà du dialogue. Alors c'est peut-être un peu moins vrai pour le guide BCE, mais en tout cas le dialogue est là, il y a vraiment un travail de co-construction assez intéressant. Sur les risques, il y a deux sujets principaux. Sur les sujets de gouvernance, on a des guidelines qui sont de plus en plus prescriptives, et notamment de la BCE sur l'organisation en fait de la gestion des risques au sein des établissements, avec une répartition des rôles qui est en construction dans l'ensemble des établissements bancaires européens, avec une intégration des risques ESG dans toutes les lignes de défense. La ligne de défense 1, le front, la ligne de défense 2, risque et conformité, la ligne de défense 3, l'audit. Et ça, c'est quelque chose de qui est en train de se mettre en place à des rythmes différents selon les établissements, mais de manière certaine. Donc, cette répartition des rôles du qui fait quoi sur les risques ESG, là où avant, c'est ce qui était dit précédemment, là où ces risques étaient considérés comme des risques nouveaux, un peu éloignés finalement des risques financiers, aujourd'hui, l'ESG est au cœur du sujet. Et en termes de gouvernance, ça se traduit par en fait une gestion des risques qui est remontée au plus haut niveau des établissements. Quasiment tous les établissements bancaires ont, et c'est d'ailleurs, ça fait partie des recommandations, une gestion des risques qui va être au niveau des comités de direction généraux et des boards, un suivi des risques qui est intégré, donc, comme je le disais, dans toutes les lignes de défense, une intégration des sujets ESG dans les rémunérations. Et ça, c'est quelque chose d'assez, de complètement nouveau aussi, dont on aimerait bien d'ailleurs que ce soit limité au niveau du senior management et des personnes qui sont directement responsables de la définition et de l'implémentation des stratégies de durabilité. Mais il est tout à fait possible que, et d'ailleurs c'est un peu le sens des guidelines, que l'intégration dans les rémunérations soit faite de manière plus large que les directions. Et un pouvoir des superviseurs qui est très largement étendu. Aujourd'hui, et notamment, et là c'est plus récent, c'est dans les propositions d'amendement de CRD6, prévoit des procédures de contrôle et un rôle des superviseurs qui devrait permettre, en cas de défaut d'alignement, et là je lis mes notes pour rien oublier, en cas de défaut d'alignement des établissements bancaires, d'imposer une réduction de risque via notamment des ajustements au business model, gouvernance et gestion des risques. Business model. Donc là, on va bien au-delà de ce qui est la mission traditionnelle du superviseur de contrôle des risques, c'est-à-dire que le superviseur pourra, si cette réglementation s'implémente de cette façon-là, ajuster les business models des établissements financiers. Donc on va quand même très très loin. Petite alerte d'ailleurs, attention aux conséquences de cette gestion de fait de la BCE. Donc ça c'est sur le volet gouvernance, et puis sur le volet intégration des risques, je vais peut-être vous dire quelques mots quand même de l'ITS final du pilier 3. Je crois que ça faisait partie du sujet. Alors, je vais un peu vite parce que je sais qu'on n'a plus beaucoup de temps. Mais c'est vrai que les enjeux de risque sont tellement cruciaux pour les établissements bancaires que je pense que ça vaut le coup qu'on s'y attarde de 2 minutes. Donc il y a des gros enjeux et des gros impacts opérationnels de cette mise en œuvre du pilier 3. C'est vraiment une réglementation qui va être complètement transformante et qui est en train d'être complètement transformante pour les établissements financiers, avec des besoins, on en a déjà parlé, de data, donc de collecte des données, sachant que sur le fond, bah, les données ne sont toujours pas plus disponibles que pour la taxonomie, hein, on est dans le même sujet. Sur la forme, on a besoin, les établissements ont besoin de mettre à jour, enfin c'est plus que mettre à jour, je dis des bêtises, c'est de complètement transformer leur système d'information, puisqu'on a besoin de collecter de la donnée qui n'était pas collectée avant. Donc il y a des gros sujets de transformation ici, avec des gros sujets d'investissement. Donc l'investissement, il est à la fois sur les systèmes d'information, et puis il est humain, parce que les systèmes d'information, ils ne vont pas fonctionner tout seuls. Il faut les gens qui aient dans les établissements, enfin dans les banques, la capacité d'aller chercher les bonnes informations, de les mettre aux bons endroits, de les interpréter correctement, etc. Donc il y a un gros, gros sujet ici. Les templates de l'EBA, donc, qui étaient publiés, je crois que c'était fin janvier ou en courant février, j'ai plus la date exacte en tête, contiennent des choses qui sont complètement nouvelles et qui vont être compliquées à renseigner, notamment sur les risques climatiques physiques, qui sont aujourd'hui assez peu suivis au niveau des banques, avec des mécanismes de mesures qui restent à mettre en œuvre. Il y a des choses, je vous le mentionne parce que c'est quelque chose qui est dans un des templates sur le risque de transition, qui est la mesure de la distance au scénario de l'AIE sur les secteurs les plus émissifs, sur 8 secteurs. Ça va être aussi une assez compliqué à faire. Et puis, il y a un template qui mentionne les expositions des banques aux 20 plus gros émetteurs dans leur portefeuille. Alors, je le mentionne parce que pour être en capacité de discloser, enfin d'apporter de la transparence sur les 20 plus gros émetteurs, ce n'est pas les 20 plus grosses expositions, c'est les 20 plus gros émetteurs. Bah, il faut être en capacité de mesurer finalement l'intensité carbone et les émissions sous-jacentes de tous les clients en portefeuille pour pouvoir ressortir les 20 plus gros. Et puis, je terminerai là-dessus, sur le pilier 3, il y a un nouveau... une nouvelle obligation de reporting dont vous avez probablement connaissance, qui est le BITAR, voilà, le Banking Book Taxonomy Alignment Ratio, qui demande notamment l'utilisation de proxy, enfin ça s'appelle estimates dans le texte, pour les entités qui ne sont pas soumises à NFRD. Et ça, c'est une grosse différence avec la taxonomie qui, comme le rappelait Elena tout à l'heure, ne n'autorise pas l'utilisation de proxy. Du coup, ce qui veut dire quoi? C'est que les banques vont être obligées de mettre au-delà de la première modification des systèmes d'information, vont devoir mettre en place une deuxième mesure qui, elle, va utiliser des proxys. Donc, on va avoir deux disclosures différentes, l'une sans proxy pour la taxonomie, l'autre avec l'utilisation de proxy pour le BITAR. Donc tout ça reste à clarifier. Et avec un dernier point d'attention, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a pas de proposition de proxys européens, ce qui est d'ailleurs une demande des établissements, en tout cas des établissements français. Je ne suis pas sûre que ce soit totalement partagé au niveau européen aujourd'hui, mais que les proxys soient fournis par une entité qui est autorité en Europe, parce que sinon chacun va faire son truc de son côté et va produire ses propres proxys, et là on aboutira à sauf sur quoi cette réglementation voulait aboutir, c'est-à-dire un manque de comparabilité entre les différentes disclosures, les différents établissements. Je fais au plus vite, hein, désolé.
Ah, mais merci Karen. Et le pilier 3, hein, c'est à partir du 28 juin 2022, donc pour le reporting.
C'est demain. 2023.
Sachant que bon, pour le BITAR, ce sera en juin 2024, notamment, donc il y a un peu de délai, mais pas beaucoup. Et effectivement, ça a des impacts assez importants. Je vais du coup accélérer et peut-être passer à la deuxième table ronde. Et ça permettra à Arthur de réagir aussi sur les sujets risques.